Énergie Violette, Adeline Courson pour vous accueillir. L'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Namasté, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Énergie Violette. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une personne qui vient de très loin, qui vit à Nouméa, et que j'ai rencontrée via les réseaux sociaux, notamment à l'occasion de la sortie de son premier livre, Infini Espoir. Aujourd'hui, je la considère comme une amie, et lorsqu'elle m'a dit qu'elle serait de passage à Toulouse, notamment pour donner des interviews et conférences sur ses ouvrages littéraires, mais aussi bien sûr pour parler de sa faculté à pouvoir communiquer avec l'au-delà, j'étais ravie qu'elle accepte de venir nous parler sur Énergie Violette. Aussi, je vous présente Anne-Hélène Gramignano. Bonjour Anne-Hélène.
Bonjour Adeline.
Anne-Hélène, merci tout d'abord. Ravie de te rencontrer en chair et en os.
C'est un pur plaisir aussi pour moi, un grand bonheur.
Et merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
Alors Anne-Hélène, à l'âge de 10 ans, tu communiquais pour la première fois avec l'au-delà, avec un être que tu pensais être Dieu.
Oui.
Aujourd'hui, en tant que médium, les personnes te sollicitent surtout pour communiquer avec les êtres décédés dont les proches sont en souffrance. Alors oui, on peut se poser la question, et si la mort n'existait pas ? Nous allons aborder ce thème tout au long de l'émission grâce à ton expérience et aux communications que tu reçois. Mais avant cela, Anne-Hélène, raconte-nous un peu ton parcours.
Alors effectivement, depuis toute petite, je ressens la présence de personnes décédées dans ma vie. Donc je sais que ça peut faire bizarre à certaines personnes, on peut y croire ou pas. Je ne suis pas là du tout pour essayer de convaincre qui que ce soit. Moi, je viens témoigner de ce que je vis dans mon quotidien avec les défunts et ce que j'appelle tous mes gentilsanges du ciel et de la terre. Donc ça a commencé, j'étais toute petite, la première fois que je me rappelle avoir vu un défunt, c'était en classe de CM1, on était parti visiter les châteaux de la Loire, parce qu'en fait je suis dijonnaise, et donc voilà, je suis née à Dijon, et j'ai quitté Dijon, j'avais 22 ans pour la Nouvelle-Calédonie, donc la Nouvelle-Calédonie, une très très belle île à côté donc, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Mais voilà, je suis donc dijonnaise, donc les voyages de classe se passaient en métropole, et on était parti visiter les châteaux de la Loire, et on avait visité toute la journée des châteaux. Et au dernier château, le guide nous explique que la châtelaine a été assassinée par son oncle. Et à ce moment-là, devant moi, m'apparaît, alors sous forme d'hologramme, hein, comme je dis, je ne les vois pas en chair et en os comme on peut se voir là, nous, mais m'apparaît comme un hologramme, une ombre. Et la châtelaine me dit, mais pas du tout, je n'ai pas été assassinée par mon oncle, c'est mon cousin qui m'a assassinée et il faut que tu rétablisses la vérité. Sauf qu'en classe de CM1, bah, je suis toute petite et je ne vais pas oser prendre la parole parce que j'ai peur qu'on me prenne pour une menteuse, qu'on ne me croit pas. Et je ne vais rien dire, je vais repartir dans le car et je vais garder ça pour moi. Et puis quelques temps plus tard, il faut savoir, c'est que mon arrière-grand-mère et ma grand-mère maternelle étaient également médiums, voyantes. Alors oui, j'aime bien préciser. Donc pour moi, la voyante est la personne qui a la capacité de prédire l'avenir. Alors que là où les médiums, ce sont des personnes qui ont la capacité donc d'entrer en contact avec l'au-delà, avec les défunts. Ma grand-mère faisait les deux choses, elle prédisait l'avenir et elle rentrait également, donc elle rentrait en contact avec les défunts. Moi, au fur et à mesure de ma mission, je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment faire, c'était donc le contact avec les défunts. Donc voilà, je suis toute petite, je suis dans la voiture, j'ai 8-9 ans. Ma grand-mère, on revient d'un déjeuner familial, donc mon grand-père conduit, ma grand-mère est à côté, moi je suis à l'arrière. Ma grand-mère va prendre ma main parce qu'elle adorait regarder mes mains et va me dire, enfin va regarder son mari et va dire « François, la petite, c'est la seule de la famille qui fera comme moi. » Et là, moi, je suis super contente. C'est la première fois que ma grand-mère fait un pronostic comme ça. Et j'ai toujours admiré ma grand-mère pour ce qu'elle faisait. Donc, je vais le répéter à ma maman. Je vais dire « Maman, tu sais pas, mamie, elle a dit que je serais comme elle. » Ah là là, donc là, ma maman n'a pas du tout apprécié, elles se sont un petit peu disputées. Et puis voilà, c'est devenu un peu tabou, on n'a plus jamais parlé à la maison. Sauf qu'avant de décéder, ma grand-mère va me laisser sa boule de cristal que je vais garder, donc que j'ai chez moi, je ne m'en suis jamais servie. Mais voilà, j'aime bien, c'est un souvenir de ma grand-mère. Et puis au fur et à mesure, les défunts vont intervenir dans ma vie. Donc au départ, je vais en avoir très très peur. Et donc voilà, je pars vivre en Nouvelle-Calédonie. Il va donc m'arriver pas mal de défunts sur ma route. Et surtout, en août 2006, je vais vivre en fait un grand traumatisme cette année 2006. C'est ma séparation avec le papa de mes enfants. Et à ce moment-là, j'ai avoir le sentiment que ma vie s'écroule. Je suis en Nouvelle-Calédonie, j'ai pas de famille autour de moi, je suis seule avec mes deux enfants. Alors heureusement, j'ai un travail, oui, parce que je suis juriste. Enfin, j'étais juriste à l'époque dans un cabinet d'avocats. Et donc voilà, je vais très très mal. Et quand on va très très mal, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se remet à appeler à l'aide, on se remet à prier. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment demandé de l'aide. Donc j'ai été entendue parce que j'ai rencontré très peu de temps mon mari actuel qui s'appelle Christophe, avec qui je suis en famille recomposée de 6 enfants. Et on a un petit dernier en commun qui a 13 ans. Et donc en août 2006, je vais coucher mon petit garçon à la sieste, Vincent, qui a 1 an. Et là vraiment, pareil, je ne suis pas là pour vous convaincre, mais dans un rêve éveillé, j'ai un ange qui va m'apparaître, qui va me dire « arrête de ressasser ta séparation ». C'est nous qui sommes intervenus pour qu'il te quitte, donc il me parlait de mon ex-mari, parce qu'on a une grande mission à te confier. Cette mission, ça va être d'aider les autres. Mais ce qui était extraordinaire, quand je raconte et quand ce que j'ai vécu, c'est que j'avais vraiment un pouvoir d'accepter ou non cette mission. Il n'y avait aucune notion de culpabilité. Je ressentais que si j'acceptais cette mission, c'était super, mais si je n'acceptais pas, c'était super aussi. Et mon cœur s'est rempli d'amour, rempli de joie, de gratitude, et bien sûr que j'ai accepté cette mission. Donc la vision va s'arrêter là. Ok, c'est super, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quoi, aider les autres? Qu'est-ce que je dois faire? Donc je me suis rappelé ce que mamie avait dit. Tu feras comme moi quand tu seras plus grande. Mamie, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle tirait les cartes. Alors, c'est vrai que ça a été vraiment tout un parcours pour moi de comprendre et voilà, quel était réellement le sens de ma mission. Donc j'en ai parlé à certaines amies, j'ai acheté un jeu de cartes, j'ai commencé à tirer les cartes. Effectivement, je me rendais compte que j'arrivais à prédire un petit peu des choses. Ça m'arrivait comme ça. En tirant les cartes, je me rendais compte que les cartes, c'est comme si elles me parlaient. Elles me disaient, bah, tu vois, telle carte dans telle situation, ça veut dire ça. Et puis, au fur et à mesure, ça m'a fait peur. Parce que là, je parle vraiment que de mon expérience impersonnelle. Hein. Pour moi, prédire l'avenir, on peut prendre un pouvoir sur les gens. Et très rapidement, les gens ne pouvaient plus prendre de décision sans me passer un coup de fil. Et ça m'a fait peur. Et voilà, notamment une fois, une dame qui m'appelle en me disant « Voilà, Anne-Hélène, je suis chez mon concessionnaire voiture. J'hésite entre 2 voitures.
Oh non.
Celle que je veux, elle est rouge. Sauf qu'il y a 2 jours, j'ai fait un rêve où j'avais un accident grave avec une voiture rouge. Du coup, je suis perdue, laquelle je dois acheter ?» Et là, je me suis dit « Mais non, mais moi, je ne veux pas prendre autant de pouvoir dans la vie des gens. Et je pense que chacun doit faire ses propres expériences. Et la vie, justement, elle mérite d'être vécue. » Par les expériences qu'on va en faire. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui m'ont fait un peu peur. Donc je me suis dit, non, moi, ce que je ne veux pas du tout prédire l'avenir. Ce qui m'intéresse vraiment de faire et ce qui me rend heureuse, c'est le contact avec les personnes décédées, pouvoir réparer les personnes qui sont bloquées par rapport à un décès ou même dans l'au-delà, les personnes qui n'ont pas pu rejoindre la lumière parce qu'effectivement, ça arrive. Et arriver à les aider à passer de l'autre côté en passant justement les messages qui font qu'ils sont bloqués encore sur Terre. Donc voilà, je vais avoir pas mal de consultations. Et le 31 décembre 2014, je vais être dans mon jardin, baignée de gratitude pour l'année écoulée, j'aime bien. Généralement, les 31 décembre, je reçois mes amis à la maison, donc je fais une belle maison, on va préparer une grande fête. Et là, à nouveau, une vision d'un ange qui va me dire « Nous voulons que tu écrives un livre. Nous voulons que tu témoignes de ce que tu vis dans ton quotidien avec nous et avec les personnes décédées. » Sauf que moi, je n'ai jamais écrit de livre de ma vie. Je ne m'en sens pas la légitimité, je ne m'en sens pas la capacité. Comme je dis, je n'étais pas première de ma classe. Donc là, c'est... mais non, je ne suis pas légitime, je n'en ai pas la capacité. Et il me répond, ne t'inquiète pas, tu vas écrire un livre qui sera très facile à lire et tu verras, il sera lu par tout le monde. Waouh! Et effectivement, donc là, on est en 31 décembre 2014. Avec le recul, hein, j'en parle dans mes conférences, mais j'ai été classée numéro 1 sur Amazon dans ma catégorie, hein, attention. Mais quand même, mon livre a été transcrit en braille. Et ça, franchement, Adeline, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais je trouve que c'est extraordinaire. Puisque comme tu me l'as appris, seulement 3% des livres édités chaque année sont transcrits en braille.
Donc oui, ça, c'est... alors la chose que ne savent pas nos auditeurs, c'est qu'effectivement, j'ai un métier à côté de l'animation radio et je dirige un centre de transcription et d'édition en braille où nous, tout simplement, nous adaptons en braille des ouvrages existants pour les rendre accessibles aux personnes non-voyantes. Donc effectivement, on est rentré en lien comme ça avec Anne-Hélène. C'est que j'avais envie d'adapter son livre pour qu'il soit accessible aux aveugles. Je te laisse prendre la suite.
Et ça, ça a été un cadeau extraordinaire pour moi. Moi, mon livre adapté pour les personnes aveugles. Et j'ai trouvé ça prodigieux. En plus, tu m'as dit qu'il y avait un comité de lecture, qu'il fallait l'unanimité du comité de lecture pour que ça puisse être possible. Enfin, tout ça, je me dis, mais tout ce que les anges m'ont dit, c'est vrai, ça se réalise. L'infini espoir est traduit en anglais, traduit en italien. Donc voilà, numéro 1 sur Amazon. Je suis aujourd'hui ici à Toulouse. Je viens faire des conférences. Enfin, moi, je vis un rêve. Tout ce qui avait été prédit, ça se réalise. Il y a beaucoup de bienveillance autour de moi. Ce sont mes lecteurs, mes lectrices qui m'organisent ce tour de France. Voilà, moi, je vous dis, je viens de Nouvelle-Calédonie, cette petite île. Je pense qu'ici, tout le monde ne connaît pas forcément la Nouvelle-Calédonie. Enfin, je vis vraiment un rêve. Donc voilà, l'écriture de l'infini espoir, et je vais continuer après à consulter. Au mois d'avril 2019, donc, va sortir l'infini espoir, et là je suis dans ma première maison d'édition. On va me remettre mon livre entre les mains. Alors ça pareil, c'est un cadeau, hein, parce qu'en fait ce livre, je vais mettre 4 ans à l'écrire.
Ah ouais.
Pourquoi 4 ans? Parce que je manque de légitimité, je manque de confiance en moi. Je vais voir mon mari donc après le 31 décembre 2014, je lui dis « Christophe, on m'a dit, enfin j'ai eu une vision ». Les anges m'ont dit que j'allais écrire un livre. Mon mari me dit « Oh, mais c'est quoi encore cette histoire ?» Je te rappelle, on a 6 enfants, on travaille. Enfin, tu as trouvé où le temps d'écrire un livre ? Je dis « Bah écoute, je sais pas. » Et effectivement, j'avais des belles histoires à raconter, tu vois. Donc voilà, je vais mettre 4 ans à l'écrire parce que je vais l'écrire, je vais m'arrêter. Puis ce grand manque de confiance en moi. Janvier 2019, les anges à nouveau vont m'apparaître. Ils vont me dire « Dis donc ton livre, ça fait un bon moment qu'on l'attend. Il serait temps que tu le termines. » Et là, je leur fais la promesse que tout 2018, je vais écrire mon livre et je ne vais plus m'arrêter. Je ne vais plus voir ma famille, vraiment. Je vais mettre vraiment entre parenthèses, à part pour les heures, pour les repas, conduire mes enfants à l'école. Mais sinon, je ne vais faire que écrire. Mes amis, je ne vais plus les voir. Mais ça va être que du bonheur. Parce qu'en fait, ce livre, je dis que c'est moi qui l'ai écrit, mais ils me l'ont dicté. Et ça a été, beaucoup de joie. Des larmes de gratitude qui ont coulé pendant toute cette année vraiment où j'ai finalisé l'écriture de ce livre. Et donc en avril 2019, je suis à Paris dans ma première maison d'édition. On me remet ce livre entre les mains. Ça, c'est vraiment magique. Hein. Tout comme quand j'ai reçu l'infini espoir transcrit en braille. Mmh. Mais c'est des émotions énormes de voir le livre transcrit en braille. Donc je suis dans ma maison d'édition. On me remet mon livre l'infini espoir. Là, à nouveau, j'entends. Tu vas écrire un deuxième livre qui s'appellera l'infini amour. Oh wow. L'infini amour, j'ai mis, attendez, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai mis 4 ans à l'écrire. Pour ceux qui l'ont lu, sincèrement, j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme dans l'écriture de l'infini espoir. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter dans un deuxième livre? Et en fait, ils ont raison. Suite à l'infini espoir, je vais rencontrer des gens qui sont vraiment en souffrance. Ça va me permettre de vivre des nouvelles expériences, des nouvelles histoires à raconter. Pareil, les anges vont me donner d'autres enseignements importants pour eux. Et va sortir, donc, il y a un an, l'infini amour. Voilà, donc, avec des belles histoires. Qu'est-ce qu'il y a, en fait, dans mes livres? Alors, ils m'ont expliqué, on veut que tu témoignes que nous faisons tous partie d'un jeu. On a choisi notre expérience sur Terre. On a choisi de vivre, une expérience sur Terre. On a choisi de vivre une partie de je-vis. Une partie de je-vis. C'est comme ça qu'on appelle, ils me disent oui. Parce que tu peux l'écrire de deux façons différentes. Tu peux écrire le je-vis. J-E-U-V-I-E ou je, J-E, plus loin, V-I-S. Et ça, j'avais trouvé ce jeu de mots extraordinaire. Donc, ils m'ont dit, vous allez choisir chacun votre incarnation sur Terre avec des cartes expériences. Les cartes expériences, c'est des événements très importants qui vont intervenir dans votre vie. Donc, ça peut être une naissance, un mariage, une rencontre, mais aussi une séparation, donc une rupture, un décès. Un voyage, des choses qui vont vraiment intervenir dans votre vie, ça sera des cartes d'expérience qui seront propres à chacun. Mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul à vivre cette partie de je vis, vous êtes accompagné d'un ange gardien. Et donc cet ange gardien, on l'a choisi avant notre incarnation sur Terre. C'est comme si, imagine, on est dans l'au-delà, et on dit « Ok, moi je suis prête à venir vivre une expérience sur la Terre. » Là, on va rencontrer notre ange gardien qui va nous dire « Tu sais quoi ? Moi, je suis d'accord de t'accompagner comme ange gardien. Par contre, il va falloir que tu penses à m'appeler une fois que tu seras sur Terre. Parce que si tu ne m'appelles pas, si tu ne me sollicites pas, je ne pourrai pas t'aider. Donc, il va falloir que tu continues, que tu n'oublies pas de rester ouvert aux signes. Et donc, j'avais trouvé ça extraordinaire. Ensuite, mais il y a des règles dans ce je vis. Alors, on a le sablier du temps. Alors, on croit qu'on a le temps, que la vie est très, très longue. Mais en fait, la vie n'est pas si longue que ça. Et le sablier du temps, une fois, j'avais rencontré un monsieur qui était venu me voir parce que sa femme était décédée. Et il était vraiment très, très mal par rapport au décès de sa femme. Et il me dit, vous voyez, Anne-Hélène, ma femme, pendant 15 ans, elle m'a supplié pour que je plante un arbre qui était dans un pot à la maison. Et tous les week-ends, elle me disait, s'il te plaît, regarde, mon arbre, il souffre dans le pot. Est-ce que tu peux faire un trou dans le jardin pour planter mon arbre? Et lui, il me dit, j'avais la flemme, j'avais pas envie de planter cet arbre. Bah, vous voyez, Anne-Hélène, je l'ai planté la semaine dernière, maintenant qu'elle est morte. Et elle n'est plus là pour en profiter. Et je le regrette vraiment. Puis une autre fois, pareil, un monsieur qui était venu me voir parce que son épouse était également décédée, il m'a dit, vous savez, mon épouse n'a jamais travaillé. Elle était à la maison, elle a élevé les enfants, et son seul plaisir, c'était de me voir rentrer du travail et passer du temps avec moi. Et moi, quand je rentrais du travail, j'avais la flemme. J'avais juste envie qu'on me fiche la paix, me mettre sur le canapé, devant la télé, et être peinard. Et j'ai pas pris du temps pour elle. Et aujourd'hui, maintenant qu'elle est décédée, je le regrette. Et ça, c'est vrai, donc, le sablier du temps. Le temps nous est compté. On a tous un instinct de survie. Et on a un pouvoir de création. Alors ça aussi, j'ai appris qu'on avait ce pouvoir de création. Une fois, j'ai une dame qui me vient voir pour rentrer en contact avec son papa qui était décédé. Et donc voilà, je fais la consultation, je lui passe les messages de son papa. Et à la fin de la consultation, elle me dit, j'ai une dernière question. Bon, ok. Voilà, je viens de rencontrer un homme. Je voudrais savoir si c'est le bon, si c'est l'homme de ma vie. Bon, ok, donc je ferme les yeux, moi j'en sais rien. Je me mets vraiment, je suis un canal, je ferme les yeux, je me connecte, et puis va venir ce qui viendra. Là, j'entends son ange qui me dit, ils ont tous les ingrédients pour réussir une vie de couple harmonieuse. Super,
très bien.
Donc je la regarde, je lui dis, a priori, c'est la bonne personne. Cette dame-là va repartir, elle va me rappeler au bout de 6 mois, je veux un nouveau rendez-vous. Alors moi, il faut savoir, c'est que je consulte gratuitement, en dehors de mes heures de travail. Donc mon temps est un petit peu compté. Et souvent, je donne rendez-vous qu'une seule fois. Parce que la fois où je vais donner ce rendez-vous-là, généralement, les messages sont magiques. Mais si vous revenez me voir dans 6 mois, dans 1 an, les messages seront souvent les mêmes. Ça ne va pas changer. Donc je trouve que ça a moins d'impact et puis ça ne sert à rien. Et puis une fois qu'on a eu les messages, il faut continuer notre vie, c'est notre responsabilité. Bref, cette dame-là, elle insiste tellement que je lui dis, ok, je cale, je leur donne un rendez-vous. C'est une dame très en colère qui arrive dans mon bureau. Alors je la regarde, elle me dit, j'ai voulu vous revoir, car je suis très en colère après vous. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, il y a 6 mois, vous m'avez dit que c'était l'homme de ma vie, donc on a aménagé ensemble. N'empêche que depuis qu'on est ensemble, qu'on habite ensemble, on se dispute toute la journée, on en est venu aux mains. La semaine dernière, j'ai pris sa voiture, je l'ai scratché contre un mur, donc je viens demander des explications. Alors moi, je suis toute tremblante. Tu vois, je suis pas à l'aise. Moi, je vous dis, je passe les messages que j'entends. Donc, je ferme les yeux, je me connecte. Je ressens la présence de son ange gardien qui me dit, tu sais quoi? Tu vas lui parler, tu vas lui expliquer la recette du gâteau au chocolat.
Ah ouais?
Recette du gâteau au chocolat. Je me sens vraiment très, très seule quand j'ai des messages comme ça qui m'arrivent. Et donc, il me dit, qu'est-ce qu'il faut pour faire un gâteau au chocolat? Il faut du chocolat. Faut du beurre, faut du sucre, faut de la farine. Bref, et il m'explique. On fait un gâteau au chocolat. Comment vous faites un gâteau au chocolat? Vous allez faire fondre le chocolat. Vous allez ensuite incorporer le beurre, incorporer les jaunes d'œufs. Vous allez tout bien mélanger, la farine, le sucre. Vous allez monter les blancs en neige, tout bien mélanger. Vous allez mettre au four. Et 10-15 minutes plus tard, vous allez avoir un délicieux gâteau au chocolat. Moi, je lui réponds, mais c'est quoi le rapport? Parce que...
oui.
Et il me dit, le rapport, c'est que eux, ils avaient tous les ingrédients pour réussir un bon gâteau au chocolat, mais ils ont pris le moule, ils ont posé le chocolat comme ça sans le faire fondre, ils ont mis par-dessus la farine, par-dessus les œufs, sans rien mélanger, ainsi sur le sucre, le beurre. Ils vont mettre comme ça au four, et 10 minutes plus tard, ils vont sortir du four le gâteau qui sera immangeable. Et là, ils viennent demander des comptes à la médium ou à l'ange gardien parce que leur gâteau est immangeable. Il est là votre pouvoir de création. Donc moi, j'ai dû répéter à cette dame-là, qui je ne pense pas m'ait compris, mais moi, en tous les cas, ça m'a fait vraiment réfléchir sur, on a les ingrédients pour réussir notre vie, et c'est à nous après d'en faire un bon gâteau au chocolat. Et puis après, arrive la fin du je vis, la sortie du je vis. Et là, quand ils m'ont parlé de cette sortie du Jupiter, c'est qu'on a tous un chronomètre. On sait quand on arrive sur Terre, mais on ne sait pas quand est-ce que le chronomètre va s'arrêter. Et ça s'est matérialisé sous forme de jeu de petits chevaux. Tu as déjà joué au jeu des petits chevaux ?
Oui, tout à fait.
On a tous joué au jeu des petits chevaux. Et là, ils me disent, tu sais, vous arrivez, une fois que vous avez monté tous vos pions, que toutes vos cartes expériences sont intervenues dans votre partie de Jupiter, eh bien, c'est la sortie du jeu. Vous partez. Mais au moment où vous décédez, et au moment où votre âme quitte votre corps, vous comprenez instantanément que vous faisiez partie d'un jeu. Et là, vous êtes heureux. Parce que quand vous jouez avec... Alors, je ne sais pas si toi, tu as déjà joué... Je ne sais pas si tu as des frères et sœurs ou avec des amis.
Tout à fait, ouais.
Voilà. Ils me disent, une fois que tu as gagné cette partie de petits chevaux, est-ce que tu es triste d'avoir gagné la partie ?
Et non.
Ben non. Personne n'est triste d'avoir gagné une partie de petits chevaux. Est-ce que tu es triste pour tes autres, les autres personnes avec qui tu jouais au jeu, qui continuent la partie ? Ben non. On est content qu'ils continuent leur partie. Nous, on s'en fiche, on a gagné. Mm-mm. Donc après, les autres membres du jeu, il n'y a pas de souci, ils peuvent continuer à jouer sans aucun problème. Est-ce que tu peux intervenir dans leur jeu ? Ben non, une fois que on est sorti du jeu, on n'intervient plus dans le jeu. Par contre... Moi, avec mes enfants, je peux les influencer. Tiens, bah, tu vois, ce petit chat-là, tu pourrais peut-être le faire avancer. L'autre, il est dans l'écurie, tu pourrais peut-être le faire sortir de l'écurie. Et en fait, on peut envoyer des intuitions. Donc nous, on est décédés, mais on peut continuer à communiquer avec les gens qu'on aime en leur envoyant des signes et des intuitions.
C'est super tout ça, on va le développer après.
Ouais.
Et merci en tout cas déjà pour cette introduction, Anne-Hélène.
Une longue introduction.
C'est super. Alors, on va faire une petite pause musicale. Je t'ai demandé de nous choisir un morceau que tu aimerais bien faire écouter à nos auditeurs. Qu'est-ce que tu as choisi ?
Alors, en hommage à ma maman, j'ai choisi Michel Fugain, « Chante, la vie chante ».
Merci, super.
C'est ta dernière chance. Chante, oui, chante. Tu peux partir quand tu veux. Et tu peux dormir où tu veux. Rêver d'une fille, prendre la Bastille. Chante, oui, chante. Et tu verras que c'est bon de laisser tomber sa raison. Sors par les fenêtres, marche sur la tête pour changer les traces.
Vous êtes sur Énergie Violette, l'émission qui vous parle de développement personnel et soins énergétiques. Nous retrouvons Anne-Hélène Gramignano, médium, passeuse d'âme, messagère des anges, auteure et conférencière. Anne-Hélène, plusieurs questions. Merci déjà pour cette belle introduction qui nous a fait entrer dans ton univers et dans l'univers de plusieurs personnes. Nous aimerions savoir comment les personnes décédées trouvent-elles le moyen de venir te parler ?
Alors, soit effectivement, les personnes vivantes sont bloquées par rapport justement à un deuil et n'arrivent pas à avancer dans la vie. Donc, elles savent, elles ont lu mon livre, elles savent ce que je fais. Donc, elles vont me solliciter, me demander un rendez-vous, une consultation. Donc, voilà. Et tu sais quoi ? La plupart du temps, les défunts arrivent en avance aux consultations.
Ils sont déjà au courant.
Ils sont déjà au courant. Et donc, des fois, je conduis mes enfants à l'école. Et dans la voiture, déjà, je ressens leur présence. Je leur ressens, donc sous quelle forme ? Alors, c'est sous forme, donc c'est pas très très agréable, je t'avouerai, parce que quand je ressens la présence d'un défunt, c'est souvent sous forme d'angoisse. Je me sens pas très bien, alors que je suis quelqu'un de très très positif, dans la vie, je vais vraiment bien, et d'un coup, je suis dans ma voiture, et là, je me sens angoissée. Et avant que je comprenne que c'était parce qu'il y avait un défunt qui était présent, je commençais à me poser plein de questions. Et pourquoi j'allais bien il y a 2 minutes, et d'un coup je suis angoissée. Et j'ai compris en fait que les défunts se manifestaient comme ça à moi. Donc maintenant quand ça m'arrive, je leur dis, hey, vous êtes en avance, hein, le rendez-vous c'est dans 1 heure. Donc ok, j'ai capté que vous êtes là, on va avoir un beau rendez-vous, mais s'il vous plaît, laissez-moi encore un petit peu tranquille, et vous reviendrez après. Et la plupart du temps, les défunts sont là avant ou ils arrivent en même temps que la personne vient me consulter. Et ça c'est magique, c'est plein d'émotions. La personne s'assoit devant moi et je sais déjà qu'on va vivre une belle expérience ensemble. Il y a ça, ou sinon, j'en parle dans mes livres, ça peut arriver à des soirées. Oh, alors ça par contre c'est plus compliqué.
N'importe quand tu...
Alors, tu sais, je suis quelqu'un, alors ça va un petit peu mieux, mais assez timide. Donc souvent, je reste avec mes copines et je bouge pas quand j'ai des soirées. Et des fois, c'est des gens qui viennent à moi. Et spontanément, on va discuter. Là, je me sens détendue. C'est surtout quand je suis stressée, je ne peux pas ressentir de défunt. Il faut vraiment que je fasse le vide en moi, que je sois détendue. Et là, je ressens leur présence. Et donc, à des soirées, quand je suis bien, quand je vais discuter avec quelqu'un, et là, j'ai un défunt qui va m'apparaître pour que je passe un message. Et c'est toujours très, très fort en émotion. Ça se passe très, très bien. Les gens, souvent, sont ouverts. Alors moi, il me faut beaucoup de courage, en fait, tu sais. Parce que c'est pas facile à une soirée de dire, écoutez... Donc, je vois un petit peu comment la tournure de la conversation va prendre. Tu vois, si ça parle de tout, de rien, je vais pas forcément oser le dire. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de hasard.
C'est des messages précis,
ouais,
quand ils viennent te déranger, comme ça.
Des messages pour rassurer. Il y a des défunts qui ont besoin de rassurer, qui sont bien, qui sont en paix, qui sont dans la lumière, qu'il faut continuer à vivre... J'ai beaucoup de gens aussi qui viennent me voir par rapport à des traumatismes de personnes en fin de vie. Les gens restent bloqués sur les dernières images qu'ils peuvent vivre avec la personne en fin de vie, donc après qu'ils décèdent. Et souvent, les défunts... Alors, il faut savoir que les défunts rajeunissent.
Ah bon ? C'est cool, ça !
Les défunts rajeunissent, ils prennent l'apparence du moment qu'ils ont préféré sur Terre. Et donc, quand ils ont leurs proches qui gardent en mémoire les derniers moments de leur vie... C'est pas forcément leur meilleur moment. Ouais. Ils sont tristes de ça. Parce qu'ils ont le sentiment qu'on les résume à leur dernier moment de vie, alors qu'en fait, toute leur vie, ça a été autre chose. Tu vois ? Et honorer un défunt, c'est honorer sa mémoire, mais en se rappelant des moments heureux qu'on a vécu avec eux sur Terre. Ça, c'est vraiment très important.
Toutes les personnes décédées ont-elles la possibilité ? Est-ce qu'elles ont toutes potentiellement la possibilité de venir parler à un médium, de transmettre des messages ?
Je ne suis pas sûre qu'il y ait des milliers... je pense qu'il y a des milliers de médiums sur la Terre, mais toutes les personnes décédées n'ont pas forcément de messages à faire passer.
Ah oui.
Voilà. Quand tout a déjà été dit, qu'il y a eu une relation sereine avec les membres de la famille, une fois qu'ils décèdent, à part venir dire qu'ils sont bien, qu'ils sont dans la lumière, qu'ils veilleront sur les personnes qui restent encore en vie, ça s'arrête là. Il n'y a pas de message extraordinaire quand tout a été dit, quand les gens partent en paix. Tu vois ? Moi, je ressens qu'il y a vraiment des messages à faire passer quand des choses n'ont pas pu être dites. Parce que la vie a fait que ça, qu'ils n'ont pas pu parler ou autre. Mais non, tout le monde n'a pas des messages extraordinaires à part qu'ils vont bien, qu'ils sont dans la lumière. Et voilà.
Ouais.
Ça, c'est important. C'est pour ça que moi, je consulte vraiment les personnes qui sont dans le traumatisme, tu vois. Mais quand tout va bien, quand c'est juste pour prendre des nouvelles de tata, tonton ou mamie, ben, la plupart du temps, et heureusement, ils sont en paix et dans la lumière. Tu vois. Et après, c'est à nous de continuer notre partie de vie en étant effectivement réceptifs aux signes, mais c'est nous, hein, les maîtres du jeu, hein, de notre jeu.
Tout à fait. Est-ce que ça leur demande une énergie particulière pour descendre des messages?
Ouais, ça leur demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent « Moi, j'y croirais que si j'ai des signes extraordinaires du défunt, genre, il faut qu'il se matérialise devant moi, ou je voudrais qu'il fasse apparaître un stylo, là, je vois un stylo devant moi. » Mais non, ça ne marche pas comme ça. Nous, tu sais, les humains, on veut tout contrôler. Mmh. On veut contrôler les signes. Quels sont les signes que nous voulons recevoir et à quel moment nous voulons les recevoir? Mais ça ne marche pas comme ça.
Ouais,
c'est faut vrai. Accepter d'être ouvert et de se dire « Moi, je fais confiance et je vais faire tout ce qu'il faut pour être réceptif aux signes, m'ouvrir à l'univers. » Et là, à ce moment-là, quand on commence à y croire, qu'on est attentif aux signes, ça devient magique. Il faut avoir envie d'y croire.
Et oui, je crois que c'est un peu la clé. Hein.
C'est la clé.
C'est avoir envie d'y croire et ouvrir le champ des possibles par rapport à ce qu'on perçoit, ce qu'on voit, etc. Parce que tout peut être signe si on va par là, enfin je pense. Hein. Mais voilà, après c'est la sensibilité de chacun. Et puis c'est l'intention aussi qui doit compter. Très bien. Alors, autre question. Quand les personnes endeuillées souhaitent avoir ou donner un message à une personne disparue, la personne décédée est-elle toujours en capacité d'entrer en contact avec toi?
Si c'est important pour elle, j'ai envie de dire oui.
Ouais.
Tu vois? Après, il y a des questions un peu bêtes. Hein. Est-ce que mon grand-père pourrait me donner les numéros du loto?
Oui, ah oui, ça doit traverser l'esprit de certains.
Ça arrive. Ouais. Ou une autre dame. Mon papa est décédé, mais c'était un peu un maniaque. Il n'a pas donné le mot de passe de l'ordinateur. Donc moi, je voudrais un rendez-vous juste pour avoir le mot de passe de l'ordinateur parce que tous les comptes bancaires, tous les accès à tout ça, c'est sur l'ordinateur de papa. Alors, j'adorerais. Hein.
Ouais.
Mais non. Non. C'est pas ce genre de message que je reçois.
Ouais. En pratique, comment tu pourrais dire que tu arrives à communiquer avec les êtres invisibles? C'est un son que tu entends? C'est une voix? C'est une présence que tu ressens? Qu'est-ce qui est au niveau...
C'est une voix par télépathie.
Ouais.
Moi, je les entends dans ma tête. Mais je sais que c'est pas forcément les mots que j'utilise dans mon quotidien. Tu vois, c'est des messages déjà qui vont me faire du bien. Ça va répondre à des questions, mais de la vie. Et ça m'aide vraiment à avancer sur mon chemin, tu vois. Et pareil, les personnes décédées vont me donner des messages que je ne pouvais pas savoir, mais qui auront vraiment un impact sur les personnes qui viennent me consulter, pour justement les aider à poursuivre leur vie.
Mmh.
Tu vois,
les personnes décédées s'identifient toujours, elles disent qui elles sont. Ou bien, des fois, c'est un peu flou
Ça peut être flou, ce qui m'aide, effectivement, parce que moi aussi, ça me prend beaucoup d'énergie pour être en contact avec l'au-delà, tu vois, ça me fatigue beaucoup. Autant, ça m'apporte énormément d'amour, de joie, j'adore faire ça, mais c'est pareil, c'est comme une pile électrique, et moi, ça me prend beaucoup de batterie.
Mmh.
Après, je suis très fatiguée. Donc, je demande aux personnes qui viennent me consulter d'emmener une photo. Et une photo, instantanément, je ferme les yeux, et c'est comme si je prenais l'ascenseur. Et je les perçois, je les ressens. Où j'ai un peu plus de mal, c'est quand les personnes ne sont pas parties dans la lumière. Ce qui peut effectivement arriver. Alors, pas toujours, mais les personnes qui se suicident, moi je fais vraiment la différence entre les personnes qui vont se suicider parce que ces personnes-là ne trouvaient pas leur place sur Terre. Et ça, automatiquement, je t'assure, enfin, dans l'expérience que j'ai, c'est que ces personnes-là qui ne trouvent pas leur place sur Terre vont aller directement dans la lumière. Et après, il y a les personnes qui vont se suicider mais qui vont instantanément le regretter. Des personnes qui vont passer à l'acte parce qu'il y a une rupture amoureuse, parce qu'ils vont perdre leur travail. Ouais, voilà. Et à un moment donné, ils vont sentir perdre pied et là, ils vont se suicider. Et à ce moment-là, au moment où ils vont quitter, leur âme va quitter leur corps, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une bêtise. Bien sûr, c'est trop tard. Et ces personnes-là peuvent rester bloquées comme les personnes qui vont mourir de mort violente. Ce que j'appelle mort violente, c'est des accidents, par exemple. Des accidents de la route ou crise cardiaque ou autre, et ils n'ont pas eu le temps de dire au revoir à la famille. Parce que tu sais, quand on décède d'une maladie, on s'y prépare. Même si on n'est pas toujours préparé, mais on se rend compte que, voilà.
Ouais.
Là, généralement, les gens, ils ont le temps de dire au revoir. Mais dans les morts violentes, moi, ce que je vois, c'est qu'ils peuvent rester coincés parce qu'ils n'ont pas eu le temps de dire au revoir à la personne. aux gens qu'ils aiment, ils n'ont pas eu le temps de leur dire « c'est pas notre choix, moi je ne voulais pas vous abandonner ». Et ces personnes-là peuvent errer encore un peu sur Terre. Et moi, ma mission, c'est de leur de dire donc aux proches, vous savez, il ou elle ne voulait pas partir, il vous aime, il veut surtout pas croire que vous les avez, enfin, qu'il vous a abandonné. Et juste en disant ces mots et en envoyant de l'amour, les personnes qui n'ont pas trouvé le chemin de la lumière, automatiquement, peuvent s'élever. Ça, j'adore. Oh,
c'est super. Mmh. C'est de cette manière que tu les aides à passer
oui.
Dans la lumière.
Oui.
Est-ce qu'il y a parfois des cas plus difficiles où les personnes décédées n'ont pas envie de partir
à la lumière? Généralement, une fois que j'ai compris ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qui leur retient sur Terre, ils se sentent apaisés, ils ont envie de partir là-haut.
Mmh.
Mmh. Après, tu as les personnes aussi qui sont vivantes, qui ne veulent pas laisser partir la personne décédée.
Oui, ça c'est autre chose, ouais.
Et qui retiennent l'être aimé sur Terre, tu vois. Et comme je dis, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne en fin de vie, c'est l'autoriser à partir.
Mmh.
L'autoriser à partir en paix. Et pas trop se renfermer sur sa douleur, parce que je sais que quand on perd quelqu'un de cher, c'est compliqué. Pour nous, on a notre douleur à gérer, mais arriver à se dire, qu'est-ce qui est mieux pour la personne en fin de vie? Qu'est-ce qui est mieux pour la personne qui vient de décéder? C'est de retrouver la lumière, d'être en paix. Et donc mettre sa peine de côté et dire, ok, t'es parti, moi je t'envoie tout mon amour, pars en paix, et je te promets que ma façon à moi de t'honorer, c'est de vivre ma vie et d'être heureux dans ma vie. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne décédée, c'est ça. C'est-à-dire, je vais prendre ma responsabilité de continuer ma vie, même sans toi, de t'honorer, réaliser des choses qu'on a, par exemple, promis de faire ensemble, mais continuer à le faire.
Ouais, c'est...
Ça, c'est un beau cadeau.
C'est beau parce que souvent, les gens qui restent sont toujours dans la douleur, la souffrance pendant des fois très longtemps. Hein.
Ouais.
Très longtemps. Et
je le rappelle, c'est la partie de jeu vie. Le défunt a gagné sa partie de jeu vie. Il sait qu'il est dans un jeu. Moi, souvent, les gens me disent « Moi, je suis sûre que mon papa, il est décédé. Il est très triste de nous avoir abandonnés. Et il doit être très, très malheureux dans le ciel ou dans l'au-delà parce qu'il nous voit malheureux. » Alors, le papa qui est décédé sait qu'on fait tous partie d'un jeu. Le temps n'est pas le même dans l'au-delà et ici sur Terre. Donc, bien sûr que le papa décédé, il aimerait bien voir sa famille unie, voir sa famille heureuse. Mais il sait qu'on participe tous à un jeu, tu vois. Donc, c'est pas pareil.
Ah, très bien. Je propose une courte pause à nouveau. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui ai choisi un petit morceau musical. On va écouter « Take Control » de Jean Tonic. À tout de suite.
I've been dreaming for this moment. For so long I just can't tell. Now that we're together dancing, my mind drifts away. Somehow it makes me wonder. Since you've been around, you've gotta be.
Vous êtes sur Énergie Violette, l'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Hélène Gramignano, médium, passeuse d'âme, messagère des anges, auteure et conférencière. Alors Anne-Hélène, on a abordé pas mal de questions, mais pour les gens qui s'intéressent beaucoup à ça et qui sentent qu'ils ont peut-être quelque chose, qu'ils perçoivent de l'invisible... est-ce qu'il y a des formations où est-ce qu'on peut s'améliorer dans cette sensibilité, dans cette perception pour essayer d'être canal et médium?
Alors, en toute sincérité, je ne sais pas. Parce que moi, ça vient vraiment, je les entends, tu vois. Je n'ai pas eu de formation. J'ai juste à fermer les yeux et j'entends ou je les vois ou... et c'est comme ça qu'ils communiquent avec moi. Maintenant, est-ce qu'il y a une école, est-ce qu'il y a des protocoles pour apprendre? C'est tellement facile pour moi que je vois pas comment on pourrait apprendre ça. Après, comme je dis aux gens, parce qu'on est très très nombreux hein, à avoir des ressentis, donc je dis aux gens, ben, faites-vous confiance, faites des tests, mais après, apprendre ça, aller faire des... Voilà, ce que tu m'as dit, des... Ben, stages
ouais. Oui, essayer de développer ses sens, ses perceptions.
En tous les cas, je n'ai jamais participé à un stage comme ça ou autre. Donc, je ne sais pas.
D'accord.
Tester et puis bah, vous verrez. De toute façon, voilà.
À chacun de faire son expérience.
Exactement.
Voilà. Alors, tu reçois des personnes en séance, en consultation. Mmh. Est-ce que tu peux dire un petit peu comment ça se passe, voilà, pour les gens qui seraient
alors,
peut-être en demande?
Oui. Il faut savoir que je ne sais jamais à l'avance comment une consultation va se passer. Puisque comme je suis canal, tu vois, la personne va venir me voir, va m'expliquer. Donc, comme je disais tout à l'heure... Le fait que je consulte gratuitement, que ce soit en dehors de mes heures de travail, mon temps, il est compté. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment aider les personnes qui sont en souffrance. Donc j'ai besoin de faire un tri comme ça, tu vois. Donc les gens qui vont vouloir prendre rendez-vous avec moi, pardon, ils vont m'expliquer un petit peu pourquoi ils ont besoin de venir me voir. Je vais leur demander de venir avec une photo. Et puis là, je vais laisser faire la magie. Comme je te dis, la plupart du temps, les défunts arrivent en même temps. Donc ça, c'est chouette. Après, oh tiens, allez, je vais te raconter une histoire qui m'a vraiment marquée. Il y a 2 ans de ça, je suis en séance de dédicace et je vais voir arriver une dame extrêmement souriante et lumineuse. Je me dis, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette dame, et elle dégageait vraiment quelque chose. Donc elle vient prendre mon livre et elle me dit, j'aimerais bien vous rencontrer pour une consultation. Mais là, elle était tellement lumineuse et heureuse cette dame que je me dis, ben non, elle n'a pas besoin de moi. Donc je ne vais pas prendre le créneau pour elle, alors que je peux le donner à quelqu'un d'autre qui en a vraiment besoin. Le temps va passer, et l'année dernière, je vais ressortir un autre livre, un livre pour enfants, et comme par hasard, elle va passer ce jour-là dans la librairie dans laquelle je dédicace. Et cette dame m'avait tellement marqué que je vais la reconnaître. Et elle vient me voir, elle me fait « je ne savais pas que vous étiez là ». Bref, je réitère ma demande, j'ai vraiment besoin de vous voir. Là, je me dis quand même, ça fait le temps est passé, elle a encore besoin de me voir, donc je vais accepter, je vais lui donner un rendez-vous. Et elle va arriver à ce rendez-vous et elle va me dire « Je viens vous voir parce que ma maman est morte quand j'avais 18 ans. Et ma maman est morte sous les coups de mon beau-père. De mon père, pardon. De mon père. Ma maman était une femme battue. Mon papa ne nous a jamais touchés, mais il a tué ma mère. Et moi, je n'étais pas là quand ça s'est produit. J'étais en Angleterre, à un voyage d'études en Angleterre. Et donc, c'est mon frère qui a trouvé le corps de ma maman. Enfin, bon, bref. Et donc, je veux juste savoir si ma maman va bien, si ma maman est dans la lumière. Parce que voilà, j'ai 45 ans aujourd'hui. Je viens de faire un burn-out et j'arrête pas de penser à elle. Et j'arrive pas à avancer dans ma vie parce que je veux savoir si ma maman va bien. Alors déjà, moi, culpabilité en me disant, oh là là, si j'avais su, je l'aurais prise plus tôt. Mais bon, après, tout est parfait, c'était le moment. Je vais me concentrer, je vais fermer les yeux, je me connecte. Et là, c'est pas sa maman que je vais ressentir, mais c'est son papa.
Ah oui ?
Son papa qui est décédé il y a quelques années auparavant. Son papa qu'elle n'aura jamais revu. La seule fois où elle l'a vu, c'était pour le procès de sa maman. Parce que donc elle est en Angleterre, sa maman décède. Bien sûr, la police est arrivée. Et tout de suite, le papa, il est parti en prison, il y a eu son procès. Elle est venue témoigner contre son papa au procès. Et elle n'a plus jamais voulu revoir son papa. Son papa va essayer de reprendre. Donc je lui dis, je fais, écoute, on se tutoie souvent. Hein. Enfin, tu sais, en Nouvelle-Calédonie, c'est assez facile de se tutoyer. Je lui dis, écoute, je suis vraiment désolée, mais c'est pas ta maman que je ressens. C'est la présence de ton papa. Là, elle se ferme. Elle me dit, ah, mais ça m'intéresse pas. Je veux pas m'entrer en contact avec mon papa. Moi, je suis juste venue pour savoir si ma maman va bien. Je dis, ok, mais c'est pas moi qui décide et ton papa a vraiment quelque chose à dire. Et j'arrivais pas à passer à autre chose, hein, parce que les défunts, ils me lâchent pas. Hein. Tant que j'ai pas passé le message, il est là, il est présent. Et ce monsieur, il venait vraiment demander pardon à sa fille. Et elle a été, oh là, comme elle a pleuré. Même moi, tu sais, c'est difficile pour moi de retenir mes larmes, parce que je la voyais pleurer. Et elle était dans le refus d'entendre ce que son papa avait dit à dire. Et là, j'ai ressenti la présence de sa maman. Et ce qui est très, très étonnant, c'est qu'ils avaient fait la paix dans l'au-delà. Et que sa maman était venue dire à sa fille, j'ai fait la paix avec papa dans l'au-delà. Et pour toi, pour ton chemin de vie sur Terre, pour t'enlever tous tes blocages, accepte les excuses de papa et ouvre ton cœur. Wow. Ça a été une super séance. Elle a pleuré. Et là, elle m'a dit, tu sais, donc après, enfin voilà, franchement, elle avait résisté. Et puis après, le papa a passé ses messages. La maman a demandé aussi. Dit, écoute, on a vraiment fait la paix. Le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi-même, c'est de pardonner pour que tu puisses avancer sur ton chemin de vie. Et cette dame-là, en partant, elle me dit, tu sais, c'est super que tu m'aies prise seulement maintenant. Parce que ce que tu m'as dit, et par rapport à mon papa, tu me l'aurais dit il y a un an, quand j'avais sollicité un rendez-vous, j'aurais pas du tout été en capacité de l'entendre. Mais là, sur cette année, il s'est passé des choses dans ma vie, et là, je peux entendre ce que mon papa a à dire, et ma maman. Et elle est repartie avec le sourire jusque-là.
Oh.
Et moi, je me suis dit, yes, mission accomplie. Mais tu vois, avant qu'elle arrive, je ne savais pas du tout comment la consultation allait se passer.
Wow, c'est fou ça, c'est génial en plus, parce que bon, elle ne venait pas pour ça.
Mais elle est repartie légère. Et oui. Après, elle m'a écrit. Ouais. Elle m'a dit, j'ai beaucoup pleuré en partant de chez toi, mais quelque part, ça m'a permis de me libérer.
Un énorme cadeau.
Oui.
Alors, on a aujourd'hui dans le studio des stagiaires qui sont à la technique pour nous enregistrer. Et quand on parle comme ça et on a fait une petite pause musicale, il y a une question qui est sortie de la part de Tom. Voilà. Et Tom te demandait, y a-t-il un enfer et un paradis une fois qu'on quitte la Terre, quoi ?
Alors, toujours pareil, je ne parle que d'enseignements qu'on me transmet. Je ne vais pas vous dire ce que moi, je pense ou voilà.
Bien sûr.
Ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que dans l'au-delà, c'était comme un gratte-ciel, avec donc un immense immeuble à plusieurs étages. Et je ressens les personnes décédées selon ce qu'elles ont vécu sur Terre, par rapport à leurs valeurs morales, si elles sont plus ou moins élevées, plus ou moins dans les étages hauts ou pas.
Mmh.
Donc, est-ce qu'il y a un enfer, un paradis ? Je vais pas employer ces mots-là, mais j'entends vraiment qu'il y en a, enfin, je les ressens, qui sont plutôt au rez-de-chaussée ou au premier étage. Et des personnes qui ont été dans l'amour sur Terre, je les sens, mais lumineux. Et eux, c'est comme si je les voyais vraiment arriver en haut de cet immense gratte-ciel. C'est tout ce que j'ai comme image, en fait.
Bah, c'est déjà une super image. Hein.
Voilà.
Voilà, donc il faut prendre l'ascenseur, Tom. Non, je rigole. Anne-Hélène, on va parler un petit peu de tes ouvrages. Alors, tu en écris 4 aujourd'hui. Je te laisse commencer par le premier, et puis ensuite les livres pour enfants qui sont passionnants.
Oui, donc effectivement, L'Infini Espoir, que j'ai mis 4 ans à écrire, donc qui est sorti en avril 2019. J'en ai parlé beaucoup tout à l'heure, essentiellement. Ensuite, L'Infini Amour, qui va reprendre aussi des beaux témoignages de défunts. À chaque fois, en fait, c'est des histoires très courtes. C'est une histoire courte, un enseignement à retenir. Une histoire courte, un enseignement à retenir. Et c'est ce que les gens aiment. Et la plupart me disent, mais ce qui est super avec vos livres, c'est que voilà, c'est des petites histoires courtes. Et avant de nous endormir, on peut en lire une. Et puis, on sait que le lendemain, on en aura une autre, etc. Donc, ils aiment bien ce format-là. Et ensuite, effectivement, un jour, je rencontre une dame, l'année dernière, qui me dit « J'ai adoré l'infini espoir, j'ai adoré l'infini amour, sauf que j'ai un petit garçon de 5 ans qui se pose beaucoup des questions sur l'après-vie, sauf que je ne sais pas du tout comment aborder ce thème avec lui. Est-ce que tu aurais... » Donc, toujours pareil, on se tutoie facilement. « Est-ce que tu aurais pensé déjà à écrire des livres pour les enfants ?» Et moi, comme je disais tout à l'heure, famille recomposée de 6 enfants, j'adorais leur lire des histoires quand ils étaient petits. Moi-même, je me lisais beaucoup d'histoires, j'adorais lire. Je disais, ah ouais, c'est super, je vais écrire des livres pour les enfants. C'est une bonne idée, tu vois, j'avais pas eu l'idée. Je me rappelle, je rentre chez moi, je suis complètement excitée. Je vais dans mon petit bureau de consultation. Je me connecte à mes anges et je leur dis, on va écrire un livre pour les enfants. Et là, je commence à partir, on va partir sur le jeu vie, les cartes expérience. Et mes anges me disent, ah non, non, non. Là, tu vas les perdre. Tu vas les perdre, les pauvres petits. Non, non, tu as parlé du... Donc, mon premier livre, Et un jour, le monde s'éveillera. C'est l'histoire d'une petite coccinelle qui va perdre ses parents. J'étais très émue parce que du coup, je l'ai lu hier à la médiathèque de Toulouse aux enfants malvoyants, hein, aux enfants aveugles.
Oui, tout à fait. Ouais.
Ouais, j'ai éprouvé beaucoup d'émotions à le faire.
Je crois que les enfants aussi ont éprouvé beaucoup d'émotions à ta lecture. Vraiment, c'était une magnifique histoire. Je te laisse continuer.
Oui, et puis j'étais attentive. Enfin bref, donc c'est l'histoire d'une petite coccinelle qui va perdre ses parents, qui va s'enfermer dans son chagrin. Et une nuit, elle va être aidée par son ange gardien, qui va lui dicter tout un périple, comment elle va faire pour justement sortir de ce chagrin et partir en haut d'une montagne sacrée pour rencontrer une mémé coccinelle qui a une boule de cristal. Et cette boule de cristal a le pouvoir de parler aux morts. Et c'est donc tout un périple que la petite coccinelle va vivre. Et bien sûr, c'est toujours des messages d'amour, des messages d'espoir. Et cette histoire, elle m'a été dictée par l'au-delà. C'était vraiment magique. Et pour les illustrations, la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, il me donne ce script, tu vois, ce scénario, en quelques phrases, mais je vais avoir du mal à passer à l'action, en fait. Et quelques jours plus tard, je vais être invitée à un repas, à un midi. Et à ce repas sera présente Amy, une jeune autiste qui a 15 ans. Amy, il faut savoir que sa maman vient de décéder, enfin 3 ans auparavant, sa maman est décédée d'un cancer. Donc, famille recomposée, comme la mienne, 6 enfants. Les deux derniers sont autistes et la maman décède d'un cancer il y a 3 ans et laisse au papa la garde des enfants avec ses deux petits derniers autistes. Et donc, à ce repas, Amy est là. Elle sait que j'ai ce contact avec les personnes décédées. Donc, elle me dit « J'aimerais bien que tu me parles de ma maman ». Effectivement, au cours du repas, je vais ressentir la présence de sa maman décédée qui va me dire « Dépêche-toi de finir de manger, il faut absolument que tu ailles parler à ma fille ». Donc je vais finir de manger, enfin bref, je vais aller parler avec Amy. Et Amy va me poser beaucoup de questions sur l'après-vie. Ce qui est super avec les autistes, hein, c'est que tout est facile pour eux. Tu sais, Amy, elle me fait penser vraiment à Forrest Gump. Je ne sais pas si tu as vu ce film.
Ouais.
Pareil, elle est extraordinaire, elle s'exprime très très bien. Elle est cash, elle est authentique, enfin, elle est super. Et je vais lui passer les messages de sa maman, mais c'est surtout ce que je vais vivre. Je vais vivre une expérience qui m'est arrivée une fois, et c'est cette fois-ci. Je vais sentir que je vais prêter mon corps à sa maman, que sa maman va rentrer à l'intérieur de moi, et que je vais lui prêter mes yeux. Et c'est plus moi qui vais regarder cette jeune fille qui a 15 ans, c'est sa maman. Et je ressens que c'est plus mon regard, que je permets à cette maman de parler une dernière fois à sa fille. Et ça, ça a été mais intense comme expérience avec moi. Donc je vais lui passer les messages. Et à la suite de ça, Amy va me regarder, va me dire « Au fait, tu sais, il faut que je te dise, j'ai un don comme mes parents, c'est celui de dessiner. » Je dis « Oh, mais c'est super, Amy, tu sais quoi, je suis en train d'écrire un livre pour les enfants, j'ai pas d'illustratrice, est-ce que tu pourrais me dessiner quelques dessins ? Je vais t'expliquer rapidement l'histoire. » Et donc Amy, en une heure de temps, va me dessiner des petites planches comme ça, magnifiques, et que je vais garder après, je vais trouver une illustratrice professionnelle, et je vais lui dire surtout, je veux garder l'esprit des dessins d'Amy. Et À l'origine, c'était donc l'ange gardien, ça devait être un arc-en-ciel. Et Amy, qui est passionnée de dinosaures, va me dire, est-ce que je peux dessiner l'arc-en-ciel en forme de lézard avec des ailes ? Je dis, bah, que c'est super. Et donc, dans les dessins, ça sera donc vraiment le lézard, enfin l'arc-en-ciel en forme de lézard avec, voilà, avec des ailes. Et je vais rentrer chez moi, pareil, baignée d'amour, de gratitude d'avoir pu vivre cette expérience, pouvoir permettre à une maman de regarder une dernière fois sa fille avec des yeux d'humaine. Et quand je vais rentrer, je vais me coucher. Le lendemain, on a une sortie en mer. Donc, je rappelle, j'habite en Nouvelle-Calédonie, sur un îlot. Souvent, les dimanches, c'est là où on se retrouve avec les amis. Je suis tellement dans cette énergie, j'ai le sentiment que je suis encore dans l'au-delà. Je vais arriver sur cet îlot et je vais dire à mes amis, laissez-moi une heure. Mais je sens que c'est là où je vais pouvoir dicter, enfin, que je vais pouvoir écrire mon histoire. Et en une heure de temps, une heure, ils vont me dicter tout le livre et un jour, le monde s'éveillera.
Wow.
Et j'ai dû changer 2-3 petits mots, mais à peine. Il est tel quel. Et ce livre, il compte énormément pour moi. Et puis, juste avant la sortie de ce livre, je suis dans mon petit bureau de consultation, toujours pareil. Je vais recevoir les dessins donc, de l'illustratrice professionnelle. Ça aussi, c'est du bonheur. Quand vous voyez les dessins qui arrivent et que vous voyez matérialiser votre livre, c'est vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et à ce moment-là, je vais regarder mon bureau comme ça et je vais voir un petit cadre que mon papa m'avait offert quand il venait me voir donc en Nouvelle-Calédonie pour les vacances. Un petit cadre avec des coccinelles. Et je vais me dire, waouh, ce petit cadre, ça fait 4 ans qu'il est là avec des coccinelles. Jamais j'aurais pu imaginer que j'allais raconter une histoire avec des coccinelles. Et tout en regardant comme ça dans mon bureau, j'ai aussi un autre cadre avec des papillons. Et à ce moment-là, mes anges qui me disent, tu sais quoi, tu vas aussi écrire un livre avec un papillon, parce que les papillons sont des signes de l'au-delà. Et donc, tu vas raconter l'histoire d'une petite fille qui est très triste parce que son chien est décédé. Et ça va être l'histoire du chien qui va rencontrer ce papillon et qui va demander au papillon de lui servir d'intermédiaire pour faire le lien entre les deux mondes. Et j'ai même pas sorti, et un jour le monde s'éveillera, que déjà...
L'autre est venu.
Assuré. Et du coup, j'ai dit, bon, ok... Et là, tac, pareil, j'ai tout pris en note comme ça. Et donc, est sorti, et un jour, le ciel redevient bleu.
Ah, j'adore. Mm. En tout cas, je recommande moi-même qui ai eu la joie d'entendre...
Et un jour, le monde s'éveillera.
Oui, avec l'histoire de la coccinelle, c'était génial. Et les enfants non-voyants à la médiathèque hier ont beaucoup, beaucoup apprécié. Ils étaient très, très immergés dans l'histoire. C'était magnifique. Merci Anne-Hélène. Alors, on va parler un petit peu d'avenir ou de projets en cours. Quels sont tes projets? Alors, dans l'immédiat, bon, tu es un petit peu en France, tu fais des conférences, tu fais des interviews. Et puis, quelle est la suite du programme?
Eh bien, ce que j'espère, c'est que voilà, ces conférences ici en métropole, ce soit un succès, ce qui me permettrait de revenir l'année prochaine et puis aller dans d'autres villes. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, vous êtes en France, mais vous venez pas nous voir en Belgique ?» Non, là, j'ai... voilà. Ou même dans d'autres villes de France, hein, comme dans le Sud ou même en Bretagne. Donc vraiment, mon objectif, c'est porter ces messages d'amour, d'espoir et avoir cette chance de, bah, voilà, déjà d'être accueillie ce soir dans ton studio.
C'est moi qui suis honorée.
Avec plaisir. Et puis faire des conférences et revenir l'année prochaine pour faire d'autres villes et voilà, porter ces messages d'espoir, d'amour au monde.
Ah, c'est super. Alors l'émission touche à sa fin, malheureusement. Moi, je resterai bien là des heures en plus. Et peut-être as-tu un petit message à donner à nos auditeurs, un petit message de fin.
Oui, alors si j'avais un message de fin à vous donner, c'est que souvent on me demande quel est... mon chemin de vie, quelle est ma mission de vie. Et ce que là-haut, ils m'ont enseigné, c'est que nous sommes sur Terre pour rayonner, pour envoyer le plus d'amour et le plus de joie possible. Ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que, en fait, nous sommes interdépendants. C'est-à-dire qu'ils ont autant besoin de nous que nous avons besoin d'eux, en fait. Et ils m'ont dit, tu sais, quand vous créez de l'amour, quand vous créez de la joie, ça se transforme en lumière. Cette lumière, on peut la réceptionner pour la redistribuer aux humains qui souffrent. Donc, plus vous nous créez la matière première. Et donc, pour créer, pour aider l'au-delà, créer le plus possible des moments d'amour, de joie sur Terre.
Ah, c'est beau. Voilà. C'est beau. Merci beaucoup, Anne-Hélène. Grand, grand merci d'avoir été présente et de nous avoir consacré de ton temps sur ta période ici en France. C'était Énergie Violette, une émission d'Adeline Courson avec à la technique... tous nos nouveaux stagiaires, merci à eux.
Merci.
Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Je vous dis namasté à vous les amis, prenez soin de vous surtout, à bientôt.
À bientôt.